à tous. Merci Paul pour cette introduction. Tu as pratiquement fait ma conclusion. Jeudi dernier, alors qu'un de mes collègues rentrait de ses congés, je lui souhaitais la bienvenue parce que moi j'avais repris mardi et je lui demande comment ça va. Il dit, nous sommes revenus sur Terre. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça, nous sommes revenus sur Terre? Nous étions sur Terre. Il dit, oui, puisque la période des fêtes nous a un peu sortis de la réalité, de notre réalité au quotidien. Et maintenant, nous rentrons dans le dur. Donc après avoir fêté Noël, après les cadeaux, qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est la tristesse qui était avant Noël? Est-ce que ce sont les problèmes qu'on a essayé de noyer dans la joie des fêtes? Est-ce que ce sont les difficultés dont on connaît les solutions mais que l'on refuse parce qu'elles sont difficiles? Est-ce que c'est tout cela qui revient? Quelle est ma réalité? Quelle est la réalité de ma vie? Matérielle, spirituelle? Le texte soumis à notre réflexion ce matin nous conduit au-delà des réjouissances, les réjouissances des bergers. Les bergers, ils ont eu le privilège de la visite des anges. Ils ont été ceux qui ont eu la primeur de cette bonne nouvelle, celle de la naissance d'un sauveur, du Messie, le Seigneur. Les bergers sont les premiers à rendre visite au Seigneur, ce nouveau-né. Ils louent l'Éternel pour ce cadeau merveilleux pour Israël et pour le monde. Et puis après ce contexte, l'évangéliste nous indique une série de rites observés par la famille de Jésus. La circoncision, la purification, accompagnée du sacrifice offert pour le premier mâle, premier-né mâle. Et puis il y a la présentation. Je profite pour appuyer ce que Paul disait tout à l'heure, c'est que la circoncision, la purification et le sacrifice sont inscrits dans la loi. La présentation n'existe pas dans la loi. Mais la loi n'est pas contre ces choses, n'est-ce pas? C'est donc à ce niveau que nous prenons notre texte dans Luc au chapitre 2 et nous lirons les versets 25 jusqu'à 40. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari, après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Nous sommes donc dans ce moment où il y a une attente. Une époque où le Saint-Esprit n'était pas encore donné à tous. Le Saint-Esprit agissait de manière précise et dans des circonstances bien particulières. Lorsque la famille se rend au temple pour la consécration de l'enfant, les parents ne savent pas qu'ils vont faire cette rencontre extraordinaire avec ce personnage. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de présentation d'enfant qui soit prévue. Les parents viennent simplement au temple avec leur enfant. Vous avez d'ailleurs constaté que Siméon n'est ni prêtre, ni responsable dans le temple. Il n'a aucune fonction religieuse. Le texte nous présente Simon comme juste et pieux. Siméon fait partie de ceux qui attendent la consolation d'Israël. Il était habité du Saint-Esprit. Il a reçu une révélation de l'Esprit-Saint au sujet du Messie. Il est poussé au temple par le Saint-Esprit. J'imagine qu'il y avait plus qu'un bébé dans ce temple. Et c'est étonnant, Siméon arrive au moment où les parents sont là. Et on peut se poser la question, comment a-t-il reconnu l'enfant? On ne lit aucune hésitation dans la démarche de Siméon, cet homme d'un âge mûr. Et toutes ces informations que nous venons d'entendre sont inconnues de la famille, des parents. Bien que le Messie soit attendu, lorsque nous lisons en Ésaïe 40, verset 1, il est dit, la période de combat est terminée, la faute est expiée. Et donc, il y a une promesse là que le Seigneur fait, une promesse ferme qu'Israël connaîtra bientôt le bonheur, si on peut dire, la paix, la prospérité. Les temps de la consolation est à portée de main. Il s'agit désormais que le Messie se matérialise. On attend. Cette attente doit devenir réalité. Le psaume 25, verset 14 déclare « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. » J'ai parfois entendu des chrétiens d'aujourd'hui nous dire que le Seigneur ne parle plus. Il se serait peut-être mis en mode veille. Pourtant, déjà du temps des psalmistes, cette parole est puissante. Elle montre Dieu à l'œuvre. Un Dieu qui communique. Un Dieu qui s'intéresse. Un Dieu qui agit. Bref, un Dieu qui vit. Et c'est cette réalité que connaît Siméon. Siméon est un homme en relation avec son Dieu. Autant aujourd'hui, nous devons être prudents lorsque l'on entend quelqu'un dire « Le Seigneur m'a dit », autant nous devons être conscients que le Seigneur nous appelle à une relation profonde avec lui. à quelque chose d'exceptionnel, de particulier, pas à une routine. Souvenez-vous de cette relation de Dieu avec Abraham. Lorsque le Seigneur a des projets pour Sodome et Gomorre, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Abraham. Il lui dévoile ses projets. Le Seigneur a-t-il quelque chose à nous dire ce matin? A-t-il quelque chose à te dire ce matin? Certes, Siméon n'entend pas le Seigneur lui parler comme Abraham l'a entendu. Mais l'Esprit Saint lui révèle. Il lui révèle qu'il verra la consolation d'Israël. L'Esprit Saint le pousse au temple. On pourrait même penser que peut-être qu'il n'avait pas prévu cela. Mais parce que l'Esprit le pousse, Siméon croit. Il croit ce que lui révèle l'Esprit et il obéit. Il obéit, il agit conformément à ce que l'Esprit le pousse à faire. Siméon est un homme qui sait entendre la voix de l'Éternel. Il n'est pas pollué par les parasites de la vie qui parfois étouffent cette voix du Seigneur dans notre cœur. Sommes-nous disposés, comme Siméon, à écouter la voix de l'Éternel? Elle se fait entendre dans la lecture de la parole de Dieu. Elle se fait entendre dans la prédication, dans l'annonce de la bonne parole. Elle se fait entendre par les serviteurs que le Seigneur se choisit pour parler en son nom. Pour entendre l'Éternel, il faut être comme Siméon, pieux et habité du Saint-Esprit. Au-delà de la foi de Siméon, ce qui captive, c'est son discours, que l'on a qualifié de cantique de Siméon. Siméon dit des choses extraordinaires. Premièrement, verset 29, la promesse est accomplie. Siméon ne mourra pas sans voir le Messie. C'est la paix et la joie dans l'âme de cet homme qui est prêt à quitter ce monde. Siméon ne demande pas la mort. Il comprend cependant que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ aussi bien pour lui que pour Israël. Mais pas que pour Israël, aussi pour le monde. Siméon a longtemps marché par la foi. De ses yeux, il contemple le salut accompli par le Seigneur. La foi de Siméon a été pendant toutes ces années dans l'attente, nourrie de la présence du Seigneur, d'une relation suivie, entretenue, vécue. Voyez ce que l'Éternel peut faire avec de simples personnes. L'espérance de Siméon est désormais une réalité. Quelle joie, quelle paix de constater ô combien notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit s'accomplit en son temps. Et c'est par la foi que nous recevons ses promesses. Notre vécu traduit cette foi jusqu'à l'accomplissement des promesses. Et cet accomplissement ici, il est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le salut d'Israël et du monde. Et Siméon va révéler des choses. Siméon décrit ce salut. Christ est la lumière pour éclairer les nations. Et cette déclaration comporte deux volets. Si Christ est la lumière, c'est parce que les nations sont dans les ténèbres. Elles sont dans l'obscurité. Elles ont besoin de voir clair. Qu'est-ce que ça veut dire voir clair? Cela veut dire entrer dans la destinée qui est la leur. La destinée des nations, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu consiste à sauver les hommes de la mort. Cette mort entrée dans l'humanité avec Adam. Dieu veut sauver l'homme. Et c'est le sens de la venue de Christ dans ce monde. Israël, le peuple juif, lui a déjà entendu parler de l'Éternel. Et la preuve de cela, ce sont ces deux témoins, Siméon et Anne, que l'on retrouve dans ce texte qui s'exprime. Ce peuple est censé déjà avoir compris qu'il y a de sens que dans la relation avec l'Éternel. La vie n'a de sens que lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu. Nous sommes faits pour vivre selon les commandements de l'Éternel. N'est-ce pas ce que nous avons chanté en introduction ? Je suis né pour te louer. L'humain est créé pour croire en son Créateur et vivre dans sa proximité. Et pour nous aujourd'hui, cette lumière, elle est en Christ. Pour Israël, lorsque l'on lit en Malachie 3, verset 20, il est dit ceci, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. » C'est le relèvement pour ceux qui croient. Ceux qui croient au Seigneur, ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui marchent dans la lumière. Et puis il y a ce deuxième temps qui est celui de la gloire d'Israël. Alors nous n'allons pas entrer ici dans un débat théologique, mais observons qu'il y a la méprise, il y a une certaine méprise de la part de certains juifs par rapport au Messie. Le Messie vient certes pour apporter la lumière au monde, pas pour faire d'Israël une espèce de peuple au-dessus des autres. Le règne de Christ dans sa première venue est un règne dans les cœurs. La consolation de Dieu, c'est celle-là en cet enfant. Pour éclairer le monde et pour que désormais la lumière brille, pour montrer le chemin à emprunter. L'Éternel veut se construire un peuple qui marche dans la justice et dans la vérité. Et c'est cela qu'annonce Jean-Baptiste. Le renoncement à soi-même et au péché, la marche dans la dépendance du Seigneur, l'amour et la justice. Si Christ règne dans notre cœur, alors on devient une créature nouvelle. On rejette ce qui est injuste, ce qui est tordu, ce qui est malsain. On rejette la médisance, la discrimination, les vols, l'adultère et tout ce que la Bible considère comme péché. Par contre, on aime ce qui est la paix, la joie. Une attention particulière pour les autres, ceux qui sont autour de nous. Bref, Christ régnant dans mon cœur, cela permet de voir les fruits de l'Esprit Saint en moi, en toi. Et si le monde adopte cette lumière qu'est Christ, alors nous n'aurions plus besoin de tant de réunions à l'ONU entre les responsables pour gérer les conflits. Il n'y aurait même pas besoin de conflits, parce que habité d'un seul et même esprit, nous aurions la facilité alors à nous comprendre. La paix serait présente. La gloire d'Israël est donc pour un second temps, pour la seconde venue de Christ. Cette seconde venue qui verra le règne de Christ sur cette nouvelle terre et sous de nouveaux cieux. Une espérance certaine, comme sa première venue. Et c'est le sens ici de ces mots que nous avons en ce sous-titre qui est « Chute et relèvement ». Christ sera une consolation, une occasion de chute, c'est-à-dire qu'il y aura un jugement qui s'abattra sur tous ceux qui rejettent le Seigneur, sur ceux qui vivent comme si Dieu n'existait pas. sur ceux qui doutent, ce jugement sera une réalité. La Bible prévient que nul n'ignore cette réalité qui vient. La lumière est venue, elle a montré le chemin à emprunter, empruntant ce chemin pour éviter ce jugement qui fera alors grincer des dents. Jésus-Christ sera un signe de contradiction. La venue de Christ ne peut pas être un événement neutre. C'est un tournant pour le monde. De son temps, il y a eu tant de controverses. Vous pouvez lire les échanges de Jésus avec les pharisiens. Ce n'était pas toujours cordial. Mais au bout de ces échanges, il fallait prendre position. Sur la question du sabbat, fallait-il aider son prochain en difficulté le jour du sabbat ou pas? On ne restait pas neutre. La seule présence de Jésus suffisait pour susciter la polémique. Fallait-il accepter l'invitation chez Zachée? Christ ne laisse personne indifférent. En réalité, ce qui dérange dans la présence de Jésus, c'est parce qu'il met à nu notre péché, notre impiété, notre manque de foi. Et très souvent, au lieu de reconnaître notre péché et notre manque de foi, nous voulons faire les fiers. Il naît alors dans le cœur de l'homme une animosité forte. Et c'est ce qu'exprimaient les pharisiens dans leur discussion avec Christ. Et c'est ce qui se passe aussi parfois dans un couple. Lorsque l'un des conjoints met à la lumière la faute de l'autre, la réaction est souvent une réaction de « mais non, c'est pas ça ». On se défend. Pourquoi? Parce qu'on veut cacher, on a honte. On a honte de ce qui n'est pas beau à voir. Alors on se retranche derrière soit des paroles dures, la violence verbale, on voit ça avec les pharisiens, soit la violence physique. Le cœur humain essaye de toutes les façons de cacher son péché. Il a honte. Et pourtant, il y a une solution qui nous est proposée. C'est de reconnaître son péché et de grandir. Mais au lieu de ça, c'est l'orgueil qui prend le dessus. Il faut faire taire cette chose qu'on ne veut pas entendre. On préfère un silence destructeur à la réconciliation, certes parfois humiliante, mais bénéfique pour tous. C'est aussi la raison de ces débats longs, difficiles, houleux, tendus entre Christ et les maîtres de la loi. Je dis juste au passage que dans ces discussions, les maîtres de la loi n'ont jamais eu raison sur Jésus. Siméon parle aussi de la souffrance de Marie, la souffrance de l'âme. En effet, Marie verra son fils vilipendé, insulté, agressé, mis en croix. La souffrance de cette mère a été constante dès l'entrée de Jésus dans son ministère. Et on peut imaginer les inquiétudes d'une mère qui voit son fils s'en aller, une fois encore pour prêcher à ces gens qui ne veulent pas t'entendre, qui ne veulent pas entendre ce que tu veux dire, ce que tu as à dire. Mais ce qui me frappe, c'est que Marie ne se plaint jamais. Elle vit tous ces événements avec une certaine distance, mais pas une indifférence. Est-ce qu'on ne voit pas là l'œuvre, une fois encore, de l'Esprit Saint, la paix de Dieu qui les garde? Dans des moments difficiles, la paix de Dieu est indispensable. Elle n'est pas un vain mot, elle est une réalité. Lorsqu'on lit en Jean 19, verset 25, on retrouve Marie et d'autres au pied de la croix, cette croix de Jésus. Et il n'y a ni lamentation, ni cri exubérant, ni aucune démonstration extravagante. Il y a une présence apaisante. Jésus s'adresse même à sa mère du haut de sa croix. Extraordinaire. Comment Dieu agit dans une vie, dans des vies. Siméon déclare aux parents que Christ dévoilera les pensées du cœur. Lorsqu'on regarde cette assistance ce matin, qui peut dire ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un à cet instant? Seul Christ connaît les pensées du cœur de l'homme. Néanmoins, le texte nous éclaire sur le fait que les pensées du cœur seront dévoilées. Si le Seigneur a donné le discernement à Siméon pour se rendre en temps opportun au temple afin de voir le salut de Dieu pour l'humanité, il est capable de dévoiler les pensées de votre cœur. Et parfois, il les dévoile à votre insu. C'est pourquoi il ne sert à rien d'essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Les pensées les plus secrètes de l'homme seront dévoilées par le Seigneur. Celui qui décide de venir à Christ doit le faire d'une manière sincère, sans intérêt. Si oui, l'intérêt de plaire à Dieu. Si vous cherchez la gloire des hommes, vous l'avez déjà. Si vous vous faites passer pour un homme pieux ou une femme pieuse, et que vous ne l'êtes pas, vous avez la gloire des hommes. Est-ce là l'objectif? Soyons comme Siméon dans cette attente de ce que Dieu veut faire dans ta vie, de ce que Dieu veut faire dans ton cœur. Et puis quand Siméon a terminé sa déclaration, il y a Anne qui s'approche, qui est le troisième personnage majeur dans ce texte. Le texte nous parle de sa filiation, de sa descendance d'Asser, Asser qui signifie « heureux » ou « béni ». Certains affirment que Anne était âgée de plus de 100 ans et qu'en fait, le chiffre 84 correspond au nombre d'années de son ministère, de sa présence au temple. Elle se serait mariée très jeune et au bout de 7 ans de mariage se retrouve veuve. Et elle a pris cette décision de servir le Seigneur. Et pendant que je préparais cette prédication, j'ai pensé à une question que mon fils m'a posée dans la semaine, c'était la semaine dernière, au sujet des nombres. Et justement, 84 est la multiplication de 7 fois 12. On comprend que le texte veut nous faire passer un message. 7 correspond à la perfection. Et 12 correspond aux 12 tribus et à l'universalité. Et on dirait qu'il y a une espèce de boucle qui se ferme. Siméon qui a annoncé le Christ qui vient pour le salut de l'humanité, pour Israël et pour l'humanité, et bien on retrouve cela ici avec cet âge donné de Anne dans ce chiffre 12 qui montre très bien que Christ vient pour Israël et pour les nations. Et le chiffre 7 nous montre la perfection de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour sauver les hommes? N'ayez rien. Ce que Dieu fait est parfait. Et face à cette réalité, face à ce que Anne voit, face à ce que Anne vit, elle témoigne de sa foi en cet enfant qui est le salut de l'humanité. Nous avons ici des exemples à suivre. Anne, elle parle de la réalité, de sa réalité avec le Seigneur. Une réalité empreinte de foi et d'espérance. Une réalité faite de choses concrètes, d'un vécu. Elle ne passe pas son temps à citer des versets bibliques. Elle témoigne de sa foi et de son quotidien. Elle parle aux Juifs. Elle parle aux Juifs qui attendent comme elle la délivrance à Jérusalem. Et le Seigneur en a fait une prophétesse, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Les parents de Jésus ayant accompli leur devoir par rapport à la loi, Luc ne donne pas tous les détails qui suivent ce message, ce passage au temple. Luc ne parle pas de la visite des mages, de la fuite en Égypte. Il embraye directement sur leur retour en Galilée. Et on a comme un sentiment de retour à la normale. Il y a une espèce de tension qui redescend. On voit ce Seigneur qui vient pour les nations, on voit ce Siméon qui parle de choses extraordinaires. Et maintenant, Luc est en train de dire, voilà, on retourne en Galilée. Luc nous présente Jésus, l'enfant Jésus, pleinement homme, un enfant qui a porté des langes. Un enfant qui a appris à marcher. Un enfant qui a appris la langue de ses parents. Bref, un humain comme toi et moi. Autrement dit, on peut percevoir que le Seigneur vient nous rencontrer dans notre humanité. Il vient nous rencontrer dans ce que nous sommes profondément en nous. Alors il n'y a pas besoin de faire du cinéma, il n'y a pas besoin de prendre une posture. Il y a besoin d'être soi-même. Soyons vrais devant le Seigneur. Il nous connaît. Il connaît notre profondeur. Il sait ce que nous sommes. Mais il veut nous changer. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour être cette lumière qui brille, qui nous montre le chemin à emprunter. Il n'y a aucun péché au-dessus de sa grâce. Alors ne vous dites pas, j'ai fait tellement de choses négatives. Comment pourrais-je être sauvé? Rien n'est au-dessus de sa grâce. S'il a accepté de descendre dans cette humanité, c'est parce qu'il t'aime. Et il veut le meilleur pour toi. Quel est ton péché? Quelle est ta réalité? Quelle est la réalité de ta vie spirituelle ce matin? Es-tu prêt cependant à ouvrir la porte de ton cœur? Alors, quelques mots de conclusion. Dans le temple de Jérusalem se joue une scène qui marque un tournant dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple, dans la vie de l'humanité. La vivacité de la foi de Siméon le conduit dans cette phase nouvelle de sa vie. C'est un nouveau départ. Ce nouveau départ se matérialise en la personne de Christ. Siméon n'a pas adhéré à une religion. Il était certes juif, mais ce n'est pas cette religion-là qui était intéressante pour lui. C'était son vécu, c'était sa relation à Dieu, c'était sa foi. Et lorsqu'on parle de la foi, quand on regarde tous les héros de l'Ancien Testament, qu'est-ce qui les qualifie, qu'est-ce qui les distingue? C'est la foi. Après Abraham, le père de la foi, tous les autres, c'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes agréables au Seigneur. C'est par la foi que nous recevons la grâce de Dieu. Nous vivons dans un monde où on nous fait croire que la vraie liberté, c'est le rejet de la foi en Christ. Où on nous fait croire que la vraie liberté, c'est de ne croire en rien. La Bible nous fait prendre conscience que l'absence de foi et l'absence d'espérance. C'est une vie sans espérance. La foi est le fondement qui tient notre vie en Christ. Deuxièmement, devant les yeux réjouis de Siméon, l'espérance cesse d'être à venir. Elle est concrète. Elle est palpable. Mais pour y parvenir, il a fallu faire preuve de fidélité, de persévérance dans l'attente. Cette foi a été nourrie jusqu'à son accomplissement. Est-ce que cela veut dire donc qu'il n'y a plus rien? Maintenant qu'il a vu Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'ennuyer? Et c'est de la plénitude du Seigneur que vit Siméon. Que pourrait-on lui apporter de plus? Le monde pourrait-il lui donner autre chose? Il vit cette grâce de manière complète. Et c'est de la démonstration que notre Dieu est fiable. Il faut lui faire confiance. Malgré le temps qui passe, Dieu tient parole. Siméon fait partie de ceux qui ont connu la réalité de cette parole de l'apôtre Paul aux Colossiens quand il déclare « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Colossiens 2, versets 9 à 10. Chères sœurs, chers frères, chers amis, Dieu peut accorder du discernement spirituel à ses enfants et cela participe de notre croissance dans la foi. Cela nous permet de ne pas demeurer des bébés spirituels, mais de goûter à la nourriture solide pour ceux qui, en raison de leur espérance, leur expérience, ont le jugement à exercer. Un jugement qui est exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est une citation ici de Hébreux, chapitre 5, verset 14. Nous l'avons vu dans ce texte, tous les Juifs n'ont pas accepté Christ, mais certains l'ont accepté. Et donc, il y a eu un accomplissement là aussi. Pour finir, nous nous trouvons ici face à des personnes d'un certain âge. Notre société a tendance à mépriser les personnes âgées, à les mettre de côté, à considérer qu'elles n'ont plus rien à apporter à la société. Siméon et Anne nous apportent la démonstration du contraire. Ces personnes âgées que nous voyons dans ce texte sont remplies de l'esprit et elles sont capables d'être celles qui irradie cela. Nous voyons Anne qui témoigne dans son grand âge. Alors, chers aînés, ne soyez pas en retrait de la vie de l'Église. Vous faites partie. Sentez-vous à votre place dans l'Église. Vous avez à dire, vous avez à apporter. Dieu vous a béni avec toutes ces longues années de vie. En retour, il est bon que vous donniez à la jeunesse, que vous enseigniez à ces jeunes qui parfois se croient sages et qui pourtant ont tant besoin d'apprendre. Et pour les plus jeunes, peut-être certains diront, mais qu'est-ce que je fais alors de ce que nous venons d'entendre? Je disais en introduction que Paul avait fait la conclusion. Et dans ses mises en œuvre, reprenons ce qu'il a dit. Peut-être plus d'engagement pour cette année. Une vie beaucoup plus près de l'Éternel. Cela se passe dans la prière. Cela se passe dans la méditation de la parole de Dieu. Cela se passe dans mon intérêt pour les autres. Dans ma disponibilité. Il y a tant à faire. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à mettre en œuvre la vie qu'il nous donne, et surtout à laisser l'Esprit Saint être en œuvre dans notre vie. Amen.